Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Je suis particulièrement heureux aujourd'hui, dans cette chronique sur les merveilleux francophiles, d'accueillir notre ami Emmanuel Iga, qui nous vient du Nigeria et qui, je dois le dire, il va s'exprimer dans un instant, il offre un parcours non seulement intéressant, mais j'ajouterais même exceptionnel. Alors, Emmanuel Iga a fait un doctorat en géographie économique et du développement à l'université de Paris 4, Sorbonne. Je l'ai dit, il vient du Nigeria et sa thèse porte sur le réseau urbain nigérian, mention très honorable. Et pour terminer son doctorat en géographie économique et du développement, il a reçu une bourse de Total, compagnie française du pétrole. Aujourd'hui, Emmanuel Iga est chargé de mission pour le développement international. Il est membre de la Société de géographie à Paris, où il s'occupe des éditions scientifiques, des conférences, des expositions. Il est membre du conseil d'administration de la Société de géographie à Paris et s'occupe aussi du développement des relations internationales Afrique, Moyen-Orient, pays de langue anglaise, voyages d'études en Arabie Saoudite et au Liban, etc. Il s'occupe aussi d'études et des recherches sur le développement, la population, les infrastructures et notamment a des relations, fait le suivi avec l'ambassade de France au Nigeria et coordonne et s'occupe de la coordination d'un programme de coopération scientifique franco-nigériane en cours qui permet à des cadres fonctionnaires et universitaires nigérians d'effectuer des stages, d'études ou de recherches en France dans le domaine du développement urbain grâce à des bourses du gouvernement français. Bon, tout cela pour dire que le docteur Emmanuel Iga, qui a fait bien d'autres choses, si vous voulez, est un homme clé dans les relations entre la France et le Nigeria, entre la France et l'Afrique. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir, Emmanuel Iga. Alors, je vous ai présenté brièvement, vous me pardonnerez, vous avez un curriculum vitae extrêmement intéressant et important, mais ce qui m'intéresse au débat, et ça sera peut-être ma première question, il va sans dire que c'est tout à fait libre entre nous, nous partageons le savoir, donc vous-même, s'il y a des éléments que j'oublie, vous me le faites savoir, bien entendu. Et j'aimerais tout d'abord, vous avez 50 ans, si je fais à peu près le si je regarde votre curriculum vitae. Et ce qui m'intéresse aussi, et je pense à Sangor en vous posant cette première question, c'est un peu aussi, parlez de nous, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de votre enfance africaine et de vos langues. Je me souviens que Sangor, lui, était du Sénégal, de Joal, le pays Serer, etc., etc. Et donc, je suis très intéressé par vos origines, s'il vous plaît. Alors, cher Emmanuel Iga.
Oui, merci de m'accueillir dans cette prestigieuse institution. Oui, effectivement, le feu président Sangor du Sénégal nous a fait l'honneur à nous tous, Africains, d'être passés par cet institut avant de nous quitter il y a quelques années. Et pour ce qui concerne mon enfance, je suis Nigérian, comme vous l'avez dit, et je précise d'emblée que le Nigeria est un pays anglophone situé en Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui compte 140 millions d'habitants, donc un Africain subsaharien sur 5.
C'est considérable.
Et c'est un pays qui est pratiquement entouré de pays francophones, le Niger et le Tchad au nord, le Cameroun à l'est, le Bénin à l'ouest. Et puis bon, on a sur l'extrémité sud une façade sur l'océan Atlantique, dans le golfe du Guinée. Alors, je suis né dans la partie centrale du Nigeria, qui tire son nom d'un fleuve, un des deux grands fleuves qui traversent le pays. Il y a le fleuve du Niger et le fleuve du Benue. Et je suis né dans l'état qui s'appelle l'état de Benue, qui fait partie des 36 États de la Fédération du Nigeria.
Bon, près juste 40... une petite question, le Nigeria, c'est combien de fois la France?
C'est intéressant à préciser, effectivement. En superficie, le Nigeria fait pratiquement le double de la France, avec presque 1 million de kilomètres carrés, 923 000 kilomètres carrés à peu près. La France fait à peu près aussi, si on reprend les chiffres de la population, à peu près la moitié du Nigeria. On est à 140 millions d'habitants. La France fait à peu près 63 millions d'habitants. Donc, c'est une densité de population à peu près comparable. Alors, l'État de Benoué qui m'a vu naître est un État de 4 millions d'habitants. Donc, à l'échelle du Nigeria, c'est un État assez petit. C'est un État qui compte deux grandes ethnies, l'ethnie Tive et l'ethnie Idoma. Alors, je suis né dans le groupe ethnique Idoma. Donc, je suis originaire de la ville d'Otukpo et précisément du village d'Upu, où la langue parlée est la langue Idoma. Et c'est une langue qui est parlée par à peu près...
Comment dit-on bonjour en Idoma?
Alors, c'est l'après-midi, donc on dirait Ma Eno.
Ma Eno.
Voilà. Ma, c'est bon. Et Eno, c'est le soleil, donc le jour. Le jour. Donc, bonjour. Ma Eno.
Ma Eno. En deux mots, etc.
En deux mots.
Très bien. C'est très,
voilà.
très, très joli.
Donc, je suis né il y a à peu près 50 ans. Et j'ai grandi au Nigeria, dans mon état d'origine, jusqu'à ce que je sois obligé, après les études d'école primaire, du niveau primaire, de quitter ma ville natale pour aller dans un des grands lycées du Nigeria qui était situé à 300 kilomètres de Tukpo, donc qui se trouve dans l'état de Plateau.
Donc à quel âge, c'est à peu près?
Ça, c'était à l'âge de 12 ans, 13 ans.
Et vous ne parliez, quelle langue à cette époque?
Jusqu'à ce moment-là, j'ignorais presque totalement l'existence de ce qu'on appelle le français. Parce que dans la partie du Nigeria d'où je viens, on n'a pratiquement aucun contact avec des populations parlant le français.
Donc la langue étrangère, c'était l'anglais.
La langue étrangère était l'anglais. C'est l'anglais qui est la langue officielle aussi du Nigeria, même si d'ores et déjà, j'ai le plaisir de préciser que partant de ce constat que le Nigeria est entouré de pays francophones et que le pays joue un rôle très important en Afrique de l'Ouest, qui compte à peu près une quinzaine de pays, dont 8 pays francophones.
Ouais, donc vous voyez, ce qui est considérable.
Le nombre de pays francophones en Afrique de l'Ouest dépasse le nombre de pays anglophones. Même si, grâce au poids démographique du Nigeria, les anglophones sont plus nombreux
que les francophones.
Que les francophones.
Je vous signale que dans cette émission, si vous voulez de temps à autre parler un tout petit peu anglais, en Idoma et même en Haoussa, car j'ai vu que vous parlez.
Voilà,
aussi
ce sont des grandes langues du Nigeria.
Voilà.
Parce qu'il faut le dire aussi, ces 140 millions d'habitants sont répartis entre à peu près 250 langues, 250 groupes ethniques et linguistiques différents. Et si d'ailleurs on ajoute les dialectes. Donc là, j'ai parlé des langues à part entière. Si on ajoute les dialectes, ce chiffre passe à 611 environ.
Ce qui est considérable. Donc,
c'est vraiment un pays d'une grande diversité, sans oublier que nous avons une population partagée entre trois grandes religions, l'islam, et le christianisme qui se partage à peu près une population de poids démographique égaux.
Le christianisme est
à peu près avec peut-être un léger avantage pour l'islam.
Pour l'islam, oui.
Et puis bien sûr ces deux religions qui nous sont quand même exotiques, ce sont des
personnelles.
Les religions halogènes, disons, sont venues se greffer dans un tissu démographique qui était déjà très traversé par les pratiques religieuses ancestrales. Donc, on a quand même des religions d'origine nigériane, d'origine africaine, qui continuent. Donc, on a le christianisme, l'islam et les religions traditionnelles qui se partagent cette population nigérienne.
Avant que nous terminions cette première partie de notre émission, est-ce que vous pourriez nous rappeler un ou deux souvenirs d'enfance vraiment marquants et qui vous enchante quand vous y pensez, etc. Vos petits secrets personnels.
Oui, bon, je pense que le souvenir le plus marquant pour moi est un peu le souvenir de ma naissance. D'après le récit que mes parents m'ont livré quand je suis devenu grand, hein, je suis l'un de ces rares êtres humains à avoir passé presque 11 mois dans le ventre de sa maman. Quelque part, j'avais refusé d'être mise au monde et il a fallu, les médecins de la médecine, disons, moderne occidentale, qui existaient déjà au Nigeria, dans les grands hôpitaux publics, avaient pronostiqué qu'il fallait s'attendre à une naissance qui ne se déroulerait pas bien et que tout espoir était perdu à un certain moment. Et ma mère est allée à l'invitation de quelques amis de mes parents en brousse pour être soignée pour le problème qu'elle avait, qui était un problème, disons, de saignement, avec une grossesse qui était problématique.
Difficile.
Et d'après elle, c'est grâce à des mélanges de plantes, d'écorces, etc., avec lesquelles on l'a soignée, que j'ai été mise au monde.
Et sauvé
en quelque sorte. Et je porte alors le médecin traditionnel qui est donc en quelque sorte à l'origine de ma naissance s'appelait, hein, malheureusement il nous a quittés, il s'appelait Ogbu, hein, de son nom Ogbu,
oui.
Ça fait qu'aujourd'hui je m'appelle Emmanuel. Prénom chrétien, hein, oui, d'origine chrétienne, oui. Et j'ai un deuxième prénom qui est le Ogbu. Hein. Donc j'ai été nommé d'après cette personne.
Le prénom de ce
voilà,
médecin.
Voilà, donc j'ai deux prénoms.
Dans quelques instants, vous allez écouter la suite de cet entretien avec le docteur Emmanuel Iga.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
Je suis extrêmement heureux aujourd'hui de recevoir Emmanuel Iga et nous continuons cet entretien et j'ai envie de vous poser la question suivante, cher docteur, comment cette rencontre et pourquoi cette rencontre avec le français ? Vous avez quitté votre village familial pour aller au lycée et là, que se passe-t-il alors ?
Alors, bon, j'arrive au lycée. Alors, le lycée se fait en deux temps au Nigeria, donc 5 années. À l'époque, les choses ont un petit peu changé maintenant. 5 années d'études et puis 2 années pour le baccalauréat. Et au cours de la première année, c'est à ce moment-là qu'on m'avait dit, bon voilà, qu'il existe dans notre curriculum de matière, une matière qui s'appelait le français et que les élèves de première année devait obligatoirement suivre des cours d'initiation à cette langue.
C'était obligatoire.
Des cours d'initiation.
D'initiation, oui, d'accord.
Bon. Et que dès la deuxième année, on avait le choix entre poursuivre les études de français ou prendre une autre matière à la place du français comme les beaux-arts. Et donc, j'ai eu mon tout premier contact avec la langue française en 1972, quand j'étais en première année de ce qu'on appelle le Government Secondary School dans l'état de Plateau à Kourou.
Et quels sont les premiers auteurs français que vous avez découverts?
Bon, à cette époque-là, on nous a parlé de Senghor, surtout. Voilà.
Là, on a donc c'était vraiment... surtout plus voilà. le justement Senghor, l'Africain, oui, que de.
On a parlé, on avait des recueils de poèmes de Senghor. Mais bon, pour une première année d'études de français, si vous voulez, oui, pour nous, c'était quelque chose d'impoludique. C'était un peu pour nous des cours pour se
familiariser.
Oui, on ne le prenait pas très au sérieux. Bon, on s'est dit, on n'aura jamais besoin de cette langue et on attendait. Tranquillement, et même, je disais, même impatiemment, la deuxième année pour larguer le français au profit d'une autre matière.
D'une autre matière.
Donc, c'est effectivement ce que j'ai fait dès que j'ai eu l'opportunité.
Vous avez largué le français.
J'ai abandonné le français pour choisir les beaux-arts, ouais. ce qui était plus facile, plus ludique pour nous. Ouais. Et quelques années plus tard, était rattrapé par le destin, en quelque sorte.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors la rencontre donc, était en 72, oui. et puis j'ai fait Fauban à la langue française, et la langue française reviendra au galop 6 ans plus tard, quand je terminais mon baccalauréat. La France avait souhaité contribuer à la formation d'un certain nombre de cadres, hein, nigérians, hein, former des futurs cadres.
Des futurs cadres,
de sorte que les entreprises françaises qui viendraient s'implanter au Nigeria auraient la possibilité de disposer de ressources humaines compétentes en langue française et en langue anglaise, et ayant aussi des compétences professionnelles utiles pour ces entreprises.
Donc c'est en fait plutôt assez utilitaire,
ce retour vers le français.
Il n'y a rien de mal à ça, au contraire.
Parce que très vite, bon, l'utile se joindra à l'agréable.
Voilà.
Parce que je suis...
L'utile débouchera sur l'agréable.
Sur l'agréable, finalement. Ça se passait en 77-78, et j'ai été parmi les élèves sélectionnés pour venir en France avec une bourse conjointe du gouvernement français et du gouvernement nigérian. Et donc, j'ai été en quelque sorte parachuté dans une belle ville qui s'appelle Paris, dont on avait beaucoup entendu parler au Nigeria, et on nous a parlé.
Et qu'est-ce qui vous a frappé au début lors de votre arrivée à Paris par rapport à cet univers quand même africain que vous quittiez? Qu'est-ce qui vous a vraiment frappé au début?
La première chose était qu'à l'aéroport, j'étais très surpris de me trouver dans une marée humaine d'hommes et de femmes de couleur blanche, quoi, disons. Bon, j'avais pas l'habitude, et je me suis dit, écoutez, mais où est-ce que je me trouve? Et puis, on nous a menés dans un restaurant de l'aéroport pour déjeuner, et j'ai été très, très surpris que j'allais être servi. Hein, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait dans mes expériences au Nigeria, que je n'ai jamais vu. J'allais être servi par des serveurs blancs dans un restaurant français.
C'est le monde à l'envers.
C'était le monde à l'envers.
Fascinant. Ah oui, oui.
Alors, donc ça, c'était le premier choc culturel.
Ah oui, tout à fait fascinant.
Et puis, bon, j'en passe de tous les problèmes qu'on avait eus pour comprendre le menu de ce restaurant. Bon, on nous a dit que...
Vous parliez déjà quand même correctement le français.
Ça faisait 6 ans que j'avais eu les cours d'initiation et que j'ai abandonné le plus rapidement possible. Donc, il y avait pratiquement plus rien. J'ai tout recommencé à zéro. Et on nous conduit dans la ville de Paris. Et là, je découvre une ville, certes, belle, mais il me manquait les clés de lecture de cette belle architecture qu'on trouve dans Paris, etc. Et j'ai eu un petit choc quand on est allé aux Champs-Élysées, parce qu'on nous avait fait croire au Nigeria, hein, par ce que les gens nous racontaient sur Paris. Hein, en anglais, on dit « see Paris and die ». On dit que Paris est tellement
voit Paris et meurt.
Voilà. C'est une ville tellement belle que une fois que vous l'avez visitée, vous pouvez mourir tranquille. Et puis, on nous a dit que les Champs-Élysées, les beaux boulevards et les belles avenues de Paris étaient tous pavés de fleurs. Et j'étais surpris quand on était arrivé que bon, il y avait des trottoirs, mais il y avait pas de fleurs.
Un peu de nature, mais très peu, oui, très peu finalement.
Bon, ouais. Bon, donc disons que on avait exagéré un peu, ce qui n'enlève rien dans la beauté de cette ville de Paris, bien sûr.
Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question suivante? Aujourd'hui, quel est le monument, la rue, l'espace, l'esplanade que vous préférez à Paris? Quel est le lieu, le jardin, l'endroit que vous préférez à Paris?
L'endroit que je préfère le plus, c'est le Sacré-Cœur. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Vous voyez, un perché.
Oui, tout à fait.
Une belle basilique du Sacré-Cœur, pour être précis.
Donc là, vous avez vraiment quelque chose, là, une...
Alors oui, ça, je ne manque pas de faire visiter ça à mes amis, mais les gens de ma famille ou mes amis tout court qui viennent du Nigeria.
Et votre jardin préféré?
Ah, mon jardin préféré, alors c'est la Cité des Sciences et de la Villette, où j'aime aller pour rêver.
L'utile et l'agréable.
Voilà, l'utile et l'agréable. Et puis j'ai toujours le plaisir de regarder un film dans le cinéma panoramique, la Géode de cette cité.
Alors,
de la Villette.
Alors, quels sont, cher Emmanuel Higa, cher ami, quelles sont les relations, comment voyez-vous les relations entre la France et l'Afrique aujourd'hui? Comment les voyez-vous, ces relations? Il n'y a pas de langue de bois, hein, nous parlons,
bon,
nous avons
alors,
des choses
y a,
à dire.
D'abord,
comment voyez-vous ça?
Une relation qui est une relation naturelle, du fait que l'histoire nous a, en quelque sorte, unis avec l'État et le peuple français. Et donc, c'est dans l'ordre naturel des choses, disons. Mais c'est des relations...
Senghor est un bel exemple.
Est un bel exemple. C'est une relation qui, évidemment, a beaucoup de côtés positifs, bien sûr, dans le sens que la France a été très présente après les indépendances en Afrique pour contribuer au développement de nos différents pays, y compris d'ailleurs de pays non francophones comme mon pays, le Nigeria, où la France est très présente. D'ailleurs,
l'influence française est importante au Nigeria.
Absolument, la France est le troisième partenaire économique du Nigeria, je crois, après les États-Unis et l'Allemagne. Et l'Allemagne, je crois. Oui. Et sur le plan linguistique, d'ailleurs, le Nigeria, il y a une douzaine d'années, a proclamé la langue française comme deuxième langue officielle aux côtés de l'anglais.
Oui, ça avait frappé les esprits.
Voilà,
hein,
partant du constat que nous sommes entourés de pays francophones et que nous avons des relations privilégiées, scientifiques, culturelles et économiques avec la France. Donc, dans l'ensemble, la France joue un rôle important en tant que partenaire du développement de l'Afrique. Mais évidemment, quand on se positionne sur le niveau politique, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui diraient que ces relations, au cours de ces décennies, ces dernières décennies, laissent beaucoup à désirer, parce qu'on n'a pas parfois trop bien compris certaines positions, certaines attitudes des pouvoirs politiques français successifs à l'égard de certains chefs d'État. Hein, par exemple, dans des pays où des chefs d'État sont restés trop longtemps au pouvoir et sont forcément faire le plus grand bien en termes du développement de leur propre pays. Et on aurait peut-être voulu que la France aide l'Afrique davantage à asseoir la démocratie dans les différentes nations.
Oui, c'est important.
Et surtout l'alternance.
L'alternance,
dans
c'est
la
ça.
Démocratie.
Oui, l'alternance. Ouais. C'est pas facile, évidemment, tout cela, de donner des conseils, évidemment. Ce qui est important, ce que vous venez de dire, est quand même tout à fait important, parce que Évidemment, il y a ces relations politiques avec l'Afrique, nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais enfin qui sont importantes, évidemment, et peut-être insuffisantes aussi, bien entendu. Il y a les relations économiques avec les faiblesses et les côtés positifs aussi que nous connaissons. Alors moi, il y a quand même un aspect sur lequel je voudrais, avant de terminer cette deuxième partie, sur lequel je voudrais quand même revenir, venir un petit instant, c'est cette question culturelle. Et moi, je suis tout à fait frappé comme Français de voir que les livres qui vraiment évoquent l'Afrique, cette Afrique moderne tournée vers l'avenir, où il y a des tas de personnalités qui font des choses extrêmement importantes, au fond, on ne les connaît pas du tout en France parce que ce genre de livre n'existe quasiment pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Absolument, absolument.
Ou c'est moi qui...
Non, vous n'exagérez rien. Je pense qu'il y a un grand problème au niveau de la coopération au niveau de l'édition des ouvrages, que ce soit des ouvrages scolaires, des ouvrages ou des romans, etc. Et il y a beaucoup à faire pour concrétiser l'appui de la francophonie dans les différents pays d'Afrique, que ce soit des pays francophones ou des pays d'ailleurs anglophones.
Et d'ailleurs, je suis tombé récemment sur le rapport Cousin, sur le livre dans les pays subsahariens, donc de l'Afrique noire subsaharienne, bien entendu, enfin, c'est un peu redondant ce que je viens de dire, le chiffre de l'exportation des livres français dans le monde est de à peu près 650 millions d'euros. Pour l'Afrique subsaharienne, c'est 30 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 5%. Pour le monde arabe, c'est à peu près 30 millions d'euros. Donc, ce que vous voyez, nous sommes d'accord, au fond, le livre africain, parce qu'il y a des problèmes évidemment d'argent, de revenus, de ressources personnelles, des problèmes d'édition, des problèmes de librairie, etc. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il y a surtout un problème, c'est que les courants, les canaux d'échange n'ayant pas été suffisamment, je ne dis pas que rien n'a été fait, bien au contraire, mais suffisamment alimentés, c'est-à-dire par la connaissance que de réciproque, etc., etc., ça veut dire que la demande n'est pas très forte parce que justement, il y a un manque de connaissances.
Absolument,
et c'est
absolument.
Quand même triste de se dire, si demain, et je me permets là de vraiment d'insister là-dessus, si demain, un jeune ou un moins jeune se dit, tiens, je voudrais un peu découvrir l'Afrique vivante d'aujourd'hui, il y a très peu de livres, sauf dans des domaines très spécialisés, qui évoquent cette Afrique. Mettons, Afrique en français, c'est un peu triste ça quand même.
Oui, le problème est multidirectionnel, si vous voulez. Bon, passons même directement aux manifestations des conséquences de ce problème, qui sont que, par exemple, beaucoup d'auteurs de grande valeur africains sont obligés de venir en Europe, en France en particulier, pour se faire publier.
Ouais,
et on a eu pas mal d'auteurs comme ça qui ont été primés, vous voyez, d'auteurs africains qui ont pu se faire connaître grâce à des éditeurs français. Ce qui serait utile à faire, c'est de faire en sorte que plus d'ouvrages puissent être publiés par des auteurs africains en Afrique, de sorte que le problème du prix dont on parlait tout à l'heure puisse être maîtrisé et que du côté de la France, les éditeurs qui, au bout de 5-6 ans, ont peut-être des livres qui n'ont pas été vendus, puissent organiser un échange entre la France et les pays africains qui ont besoin de ces livres, de sorte qu'on puisse les acquérir à moindre coût exporter vers ces pays.
Cher docteur, ça se fait déjà, mais évidemment de façon limitée. Enfin, l'Association des Palmes Académiques, la MOPA, à ce qu'on appelle
très
le don
active,
du livre.
Oui, c'est
et
des...
c'est très actif. Et ça, c'est une des associations
des
en France.
Des organisations non-gouvernementales
voilà,
qui sont très
qui fait un
actives
travail
dans
formidable.
Ce domaine.
Ouais. Je termine là cette deuxième partie et nous allons nous retrouver dans un instant avec le docteur Emmanuel Higa qui est bien entendu chargé de mission pour le développement international, notamment auprès de la Société de géographie de Paris.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert, où jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kanz.
Je suis très heureux aujourd'hui, dans cette dernière partie de l'émission, de m'entretenir avec le docteur Emmanuel Higa, qui, vous le savez maintenant, chers auditeurs, est chargé de mission pour le développement international auprès de la Société de géographie et qui est l'auteur d'une thèse tout à fait remarquée et remarquable dans le cadre de l'Université de Paris 4 Sorbonne et qui s'intitule cette thèse « Le réseau urbain nigérian » et qui a obtenu, je le précise, une mention très honorable et avec l'appui d'une bourse de Total, compagnie française du pétrole. Voilà. Alors, cher docteur Higa, dans cette dernière partie de l'émission, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours. C'est-à-dire aujourd'hui, quelles sont vos actions personnelles? Quels sont un peu vos rêves aussi? J'aimerais un peu en savoir plus sur votre action.
Je suis très engagé dans le domaine associatif actuellement pour essayer de, disons, porter la bonne parole de la francophonie et au-delà de la francophonie, de la diversité culturelle et linguistique sur le continent africain et en particulier sur le Nigeria, qui est mon pays d'origine et que je connais très très bien. Je suis actuellement le président de l'Association internationale des docteurs des universités de France, donc en lettres et sciences humaines.
Ce qui est important.
Qui me sert, oui, voilà, de levier pour organiser toutes sortes de d'action pour venir en appui soit à des Nigérians francophones qui ont fait des études en France, qui sont rentrés au Nigeria ou qui travaillent ailleurs dans le monde et qui souhaitent continuer d'entretenir des relations scientifiques avec la France et l'association qui s'appelle l'AIDUF donc est très active dans ce domaine. Ça c'est un premier aspect de mes actions personnelles. Donc par exemple, essayons d'accompagner l'action des services culturels de France dans les différentes missions diplomatiques au Nigeria, en Afrique et même au-delà de l'Afrique pour aider à organiser la venue en France de boursiers qui peuvent donc compter sur notre appui pour, par exemple, trouver des établissements scolaires adaptés à leur projet d'études et les suivre.
Quel est le nombre de boursiers depuis que vous avez commencé vous-même à collaborer, si vous voulez, si j'ose dire,
une dizaine dans le cadre de l'AIDUF, de l'Association internationale des docteurs de l'Université de France. Actuellement, il y a 3 boursiers du Nigeria. On en a tant d'autres là. Et d'autres qui viendront de l'Ouganda et de l'Angola. Vous voyez, donc ce ne sont pas forcément des pays francophones. Je me suis particulièrement actif et même, je dirais, militant pour essayer d'accroître le rayonnement de la francophonie dans ces pays qui ne sont pas francophones.
Oui, vous n'êtes pas pour le nationalisme étroit, visiblement, ça fait plaisir.
Absolument, je pense que la France a eu raison de soutenir le principe de la diversité culturelle et linguistique et de faire en sorte que l'UNESCO adopte une convention internationale en 2005 pour favoriser le respect de ce principe.
Est-ce qu'en France, on peut apprendre l'idoma et le haoussa?
Alors, le haoussa est enseigné à l'Institut des langues orientales. Il y a aussi l'Igbo et le Yoruba. Ce sont les trois grandes langues du Nigeria. Elles sont enseignées là-bas. Le peul est enseigné aussi, mais le peul n'est pas exclusivement nigérian. Ça traverse 5 ou 6 pays d'Afrique occidentale.
Oui, mais donc il y a plusieurs langues nigérianes.
Je sais que l'idoma les intéresse beaucoup, parce que nous avons des éléments de phonétique qui sont très particuliers et qui intéressent beaucoup de linguistes. En France, et
donnez-nous un exemple, si vous voulez.
Comme je vous disais tout à l'heure, mon prénom traditionnel, c'est Ogbu.
Oui,
alors, c'est O comme olive, G-B-U.
Oui, O-G-B-U.
Alors, l'association GB est très difficile à prononcer pour beaucoup de gens. Alors,
dur,
pour nous, c'est Ogbu. Hein, on trouve cette phonétique dans d'autres pays comme la République démocratique du Congo. Et ça intéresse des gens qui veulent savoir comment on peut tourner la langue pour réaliser la prononciation de cette association.
Quel est le mot que vous préférez soit en idoma, soit en haoussa? Votre langue maternelle, je m'excuse, l'idoma.
Hein, oui.
Si ma mémoire est exacte. L'idoma. Et quel est votre mot préféré en idoma? Le mot, un des mots ou le mot que vous affectionnez le plus?
Le mot, c'est inalegu.
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 Et cela signifie?
Ça signifie la justice et le principe de l'équilibre de la nature.
Je trouve que ça...
Le prénom le plus répandu, parce que les idomas croient que la nature équilibre toujours les choses. Hein, si vous me faites du bien, la nature vous renverra ça.
Vous renverra. Oui.
Donc vous dites, et si vous me faites du mal...
Inalegu.
Oui.
Inalegu.
Voilà.
Inalegu.
Ouais, c'est un mot que nous apprécions beaucoup.
C'est très beau que nos auditeurs, je suis sûr, dans le monde entier... réalise qu'il y a à part les grandes langues que nous connaissons tous, évidemment, qu'il y a d'autres langues importantes, notamment africaines, l'idoma, l'aoussa, le peul, le yoruba, etc., etc. C'est très important. Alors, pour revenir, le temps passant, et nous aurons l'occasion de nous revoir, bien entendu, pour revenir encore à votre parcours, si vous voulez, à votre cheminement, quels sont un peu vos rêves, là, maintenant? En deux minutes, si ce n'est pas trop vous demander, quels sont un peu vos rêves entre la France et le Nigeria?
Alors, mon rêve, c'est de faire en sorte que le nombre de Nigérians francophones, on estime ça à peu près 5 millions. Bon, c'est surtout des Nigérians qui vivent dans les parties frontalières avec les pays francophones que j'ai évoqués dans la première partie de l'émission. Et de porter ce nombre de Nigérians francophones, francophiles, de 4 millions, à 10 millions.
Vous êtes un véritable ambassadeur de la France.
Dans les 5 années à venir.
Vous êtes
un projet ambitieux, mais je ne pourrais pas y arriver tout seul. Je crois que la France comprend très très bien le Nigeria, et le Nigeria comprend très bien la France. Ce sont deux pays qui fonctionnent très bien ensemble.
Vous sentez soutenu par la France?
On se sent compris par la France, mais pas assez soutenu. Il y a toujours un problème de moyens. Vous voyez, la France, par exemple, est obligée, en quelque sorte, par l'histoire de sa présence dans les pays francophones, de privilégier l'appui à des pays comme le Bénin, comme le Sénégal, qui sont en population autrement beaucoup plus petits que le Nigeria, de leur accorder, par exemple, beaucoup plus d'aide pour promouvoir l'enseignement du français qu'un pays comme le Nigeria.
À vous de persuader nos autorités. Je suis sûr que vous êtes
capable de le faire. Mais je pense que les pouvoirs publics n'y arriveront pas tout seuls. Bon, le gouvernement français fait de son mieux. Il y a aussi une tendance vers une décentralisation accrue de la coopération culturelle, scientifique, donc qui permet à des régions, à des départements de s'impliquer.
Ça, c'est important.
Et ça, il faut l'encourager.
C'est important.
Et je pense que le maillon manquant pour l'instant, c'est le maillon des entreprises françaises.
Combien y a-t-il d'entreprises françaises installées au Nigeria?
Il y en a 132.
Ce qui n'est pas négligeable. Il y en avait combien il y a une vingtaine d'années?
Il y a une vingtaine d'années, peut-être la moitié de ça.
La moitié de ça. Donc, ça a quand même doublé, disons, en 20 ans. Alors, j'en arrive à la dernière question. Mais évidemment, nous aurons l'occasion de nous revoir, bien entendu, et vous reviendrez sur nos ondes avec un immense plaisir, bien sûr. Comment voyez-vous, cher docteur Iga, L'avenir du français en Afrique, vous savez que c'est quand même une période qui ça bouge beaucoup. La mondialisation, il y a la langue anglaise. On vient d'apprendre que peut-être que Madagascar, si vous voulez, va faire en sorte que l'anglais devienne aussi, avec le français, et bien sûr après le malgache, langue officielle. Les Chinois aussi arrivent en force en Afrique. Alors que pensez-vous de cette situation-là actuellement? Est-ce que le français risque d'être rapidement dépassé? Ou au contraire, il a de belles cartes à jouer. Lesquelles?
La France a une belle carte toujours à jouer, et le français en particulier. L'attrait de la France est très élevé en Afrique, et particulièrement, paradoxalement, au Nigeria. Beaucoup de Nigérians rêvent de venir en France un jour pour faire leurs études. Et je pense que ça, c'est le levier sur lequel...
Des francophiles, vraiment
oui,
des francophiles.
Oui. On sait que la technologie française est une très bonne technologie. On le voit là, le TGV.
Le TGV, c'est formidable.
Les Nigérians adorent voir ça, surtout adorent voir la France battre des pays industrialisés importants comme les États-Unis, par exemple. Les Nigérians sont des adeptes d'un monde
multipolaire.
Je pense que c'est le levier sur lequel la France pourrait jouer. Alors, je pense aussi que l'avenir du français en Afrique, et en particulier dans les pays non francophones, sera un avenir un peu conditionné par ce qui sera dans les années à venir la politique d'immigration en France. Vous savez, c'est un sujet un peu brûlant qu'on politise assez souvent en France, et qui fait que...
J'aimerais demander l'avis d'un homme de l'Afrique, d'un monsieur qui aime la France, d'un monsieur qui vit ici, et qu'on est heureux, on est honoré de vous avoir ici. J'aimerais savoir, est-ce que vous auriez peut-être quelques petites recommandations à faire, tout à fait comme un homme libre, pour proposer quelques améliorations justement de cette politique d'immigration, et comment? C'est-à-dire sans jouer avec le feu et en donnant, disons, quelques avis tout à fait qui soient des avis empreints de sérénité et de justice. C'est un mot que vous aimez bien.
Oui, moi je suis ici, je sais que c'est un problème compliqué.
C'est compliqué.
Que la France, évidemment, comme tout pays, ne peut pas se permettre non plus de garder ses frontières grandes ouvertes à tous ceux qui voudraient venir.
Bien sûr, tout à fait.
Ce qui serait important, c'est comment faire le tri entre les personnes de pays étrangers, francophones ou non francophones, qui voudraient venir en France pour peut-être réaliser un projet d'études, un projet professionnel peut-être travailler, séjourner dans une entreprise française, mais avec des compétences indiscutables dans je ne sais pas, domaine technologique, etc. On a essayé de faire passer le message de la possibilité de faire ce qu'on appelle l'immigration choisie. C'est un thème qui n'a pas été très bien compris en Afrique, mais je pense que de toute façon, la France devrait trouver l'instrument d'organisation de l'immigration qui permettrait de garder la porte ouverte quand même à des gens qui voudraient venir faire des projets professionnels ou d'études,
donc
qui permettraient de faire rayonner davantage. Vous savez, quand la francophonie, quand on fait de quelqu'un comme moi, un anglophone d'origine, un diplômé d'une université française, voyez, automatiquement, on fait de moi un francophone, un francophile, et à travers moi, cet effort est même démultiplié, parce que je peux vous dire que je suis peut-être à l'origine de la francophilisation de beaucoup de Nigérians, et au-delà des Nigérians, de beaucoup d'autres Africains qui m'ont côtoyé et qui, m'ayant vu, ont souhaité venir suivre mon exemple.
Écoutez, je suis extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis extrêmement heureux de ce premier entretien avec vous. Vous êtes un homme pour le dialogue des cultures, et ça, c'est vraiment très impressionnant. Et j'aimerais que vous me disiez comment on peut se dire au revoir dans votre langue, l'idoma, et pour saluer tous nos amis africains. Comment dit-on au revoir?
On le dit en deux mots.
Oui.
On dit ngo, ngo. Vous voyez, c'est une phonétique très difficile à réaliser. Ngo, ça veut dire au revoir.
Oui.
Et le deuxième mot que l'idoma ne manquera pas d'ajouter, oui, c'est aïnia.
Mot haïnia.
Aïnia.
Mot haïnia.
Aïnia, eh bien, ça veut dire merci.
Eh bien, je vous dis thank mot aïnia, au revoir et merci.
Merci beaucoup et je, à vous et aux auditeurs.
Je vous remercie infiniment. Donc, pour nos auditeurs, je viens de recevoir le docteur Emmanuel Higa et je vous signale que vous pouvez parfaitement télécharger gracieusement cette émission dans notre médiathèque. Je vous remercie. Bonne journée.
Merci bien.